Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric Reinhardt.
Bonjour.
Merci
désolé
d'être
pour ce petit retard.
Avec nous aujourd'hui, vous êtes l'auteur notamment du système Victoria, de L'amour et les forêts, La chambre des époux ou encore Comédie française. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler plus particulièrement de votre dernier livre, Sarah, Suzanne et l'écrivain, publié aux éditions Gallimard. Un livre absolument fascinant, l'histoire de Sarah, qui est donc une femme qui un jour décide d'écrire à l'écrivain. L'écrivain qui va décider de raconter son histoire en la fictionnant et en créant le personnage de Suzanne dans ce livre, votre livre. L'écrivain raconte à Sarah le roman qu'il s'apprête à écrire et vous faites comme ça cohabiter le modèle, Sarah, et l'héroïne de fiction. Cette forme, il vous a fallu, je crois, un petit peu de temps pour la trouver. Elle n'était pas là dès le départ. En revanche, le fait que vous vouliez raconter l'histoire de Sarah, faire quelque chose de l'histoire de Sarah, qui vous a donc un jour envoyé un message, ça, vous l'avez su tout de suite. À quoi est-ce que cette évidence a tenu? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de messages. Qu'est-ce qui a fait que ces quelques mots vous ont donné envie immédiatement d'en savoir plus? Et ensuite, je crois, un mail qui a été, je vous ai entendu dire que ces deux pages de mail vous avez été fécondées par ces pages. Voilà, à quoi a tenu cette évidence?
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Ça a commencé en 2017, après la parution de La chambre des époux. D'ailleurs, j'étais venu le présenter ici, à Brive. Il y avait une rencontre par un journaliste de la montagne. Et donc après l'apparition de La chambre des époux en 2017, j'ai reçu sur Facebook un message d'une femme que je ne connaissais pas qui me demandait mon adresse mail. Et alors je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu qu'elle vivait, merci beaucoup, une histoire douloureuse et silencieuse qui lui donnait le sentiment d'être dans l'un de mes livres et qu'elle voulait me la raconter. Alors, piqué par la curiosité, et je pense par ailleurs que les écrivains doivent être en perpétuelle alerte, très vigilants, parce que la rencontre merveilleuse ou le livre à venir peut vous frôler sans que vous en preniez garde. Et donc, je lui ai donné mon adresse mail. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un mail de 2 pages, extrêmement émouvant, qui m'a bouleversé. J'ai trouvé déchirant et poignant. Et j'ai su dans l'instant que ce serait en effet l'un de mes prochains livres. L'intitulé du mail, c'était « Inspire ». Véritablement, elle avait envie que ces 2 pages qu'elle m'avait écrites m'inspirent un roman. Mais des histoires, on m'en raconte beaucoup. Il est extrêmement rare que... Alors, je peux être très touché et compatir avec, je sais pas, la douleur ou la tristesse des personnes qui me racontent leur histoire. Mais il est rare que m'en vienne l'idée ou le désir d'un livre. Et là, vraiment, je suis instantanément devenu cette femme en lisant ce qu'elle me racontait, véritablement. C'est-à-dire que je comprenais de l'intérieur ce qu'elle était en train de vivre, la décision qu'elle avait prise, la situation dans laquelle elle se trouvait et l'impossibilité à laquelle elle se heurtait d'en sortir. Pas mal de lecteurs me disent, enfin pas mal, il arrive que des lecteurs me disent qu'elle a fait une énorme erreur, que la décision qu'elle a prise était totalement absurde, qu'il était évident que ça ne marcherait pas et qu'il fallait être complètement fou ou idiot pour prendre ce genre de décision. Et moi, je n'ai pas pensé ça du tout en lisant son mail. Je m'imaginais très bien être capable d'envisager les choses de cette façon-là, avec cet idéalisme et cette ingénuité. Et donc, je me suis identifié à cette femme. Et il y a 2 choses dans ce mail qui m'ont véritablement... qui m'ont fait me dire que ce pourrait être un livre, au-delà de la situation dans laquelle cette femme se trouvait, parce que je dois préciser qu'elle m'a écrit ce mail non pas pour me raconter quelque chose qu'elle avait vécu, Parce que ça, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « Ah, j'ai vécu une histoire incroyable » et qui me la racontent. Là, elle était en train de la vivre. Elle était vraiment au cœur de la situation qui est dans ce livre. Et c'est, alors ce qui m'a vraiment fait me dire que j'allais écrire un livre, c'est deux choses. C'est une image. Oui, c'est ça que je disais. C'est au-delà de la situation qui était extrêmement intéressante d'un point de vue romanesque ou narratif, disons, c'est une image. Elle me disait dans ce mail qu'elle allait chaque soir se dissimuler dans l'ombre de grands arbres pour regarder vivre sa famille à travers les fenêtres illuminées, parce qu'elle était exclue de son foyer, qu'elle ne pouvait revenir chez elle et que ses enfants lui manquaient. Ça, cette image poignante, j'avais envie de la faire exister dans un livre. En lisant ce mail, je me suis dit, je veux faire exister cette image dans un livre. Presque, elle est pour moi, elle m'est destinée. Et sans doute m'a-t-elle écrit, parce qu'elle pressentait que cette scène-là, j'en ferais, puisque c'était une de mes lectrices, que j'en ferais quelque chose, et sans doute que je la transcendrais, que par là même, je donnerais peut-être du sens à ce qu'elle était en train de vivre. Et puis, l'autre chose, c'est le silence. La violence du silence. C'est-à-dire que cette femme, la violence à laquelle elle était confrontée, était celle du silence irrévocable de son mari et de sa fille, qui l'isolait et qui la fragilisait, la détruisait même intérieurement, la torturait. Et après avoir écrit L'amour et les forêts, où de la même façon, on voyait une vraie violence à l'œuvre, mais là, elle était manifeste. Le lecteur la voyait, le mari détruisait sa femme de mille façons. Le mari, il était indiscutablement néfaste, funeste, toxique. Là, ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que le mari, il était invisible, il s'est rendu invisible. Et c'est cela même qui torturait cette femme. Et par ailleurs, il n'était pas particulièrement nocif et néfaste. C'était quelqu'un de plutôt, on en reparlera, mais pas, plutôt conciliant, pas contrariant. En tout cas, voilà, pas aussi pervers que l'était le mari de Bénédicte Ombredane dans L'amour et les forêts. Donc après avoir écrit L'amour et les forêts, ça m'intéressait, sur le plan littéraire, de mettre en scène cette violence-là, cette violence particulière qu'on connaît tous pour l'avoir expérimentée d'une façon pas grave lorsque une personne à qui vous envoyez un message ne vous répond pas. Et la torture qu'on peut éprouver du silence, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi cette personne ne me répond pas ?» Donc on en envoie un deuxième pour préciser sa pensée. Et on sait tous l'espèce de spirale pernicieuse dans laquelle on peut se trouver entraîné par quelqu'un qui ne vous répond pas. C'est vraiment une torture. Et voilà, là, ça prend une ampleur absolument inouïe, parce que ça va vraiment détruire cette femme. Et quand elle m'écrivait ce mail, elle était en voie de destruction, cette femme. Voilà. Donc c'est vraiment les deux choses qui, tout de suite, m'ont fait me dire que lorsque j'aurais écrit Comédie française, puisque lorsque j'ai reçu ces deux pages, je venais tout juste de commencer l'écriture de mon roman Comédie française. Donc cette femme, je lui ai envoyé un mail, je lui ai répondu en lui disant que je compatissais, que je lui donnais, je pensais à elle, que je lui souhaitais du courage pour ce qu'elle était en train de traverser et de vivre. Et je lui ai dit que très certainement, je reprendrai contact avec elle parce que son mail me parlait. Et puis elle ne m'a jamais répondu. Enfin, elle ne m'a jamais répondu. Et c'est seulement après avoir écrit Comédie française, l'avoir accompagnée en librairie de la même façon que là, j'accompagne Sarah Suzanne et l'écrivain, et que j'ai décidé d'écrire Sarah Suzanne et l'écrivain, c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec elle.
Vous avez repris contact avec elle quand vous avez trouvé la forme de ce roman. Et c'est ce que je disais au tout début de cette rencontre. Elle n'était pas là donc dès le départ, dès la réception du fameux mail, même si vous aviez en tête cette image très forte et ce silence que vous aviez envie de raconter, cette douleur-là. Qu'est-ce que cette forme, ce dialogue entre Sarah et l'écrivain et donc ces deux récits parallèles, le récit de Sarah, l'histoire de Suzanne qui parfois... se rejoignent totalement à différents endroits et on va l'évoquer divergent. Qu'est-ce que cette forme vous permettait ? Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de la raconter ainsi ?
Alors, je répondrai en deux temps. Le premier temps, c'est que pendant tout le temps que j'écrivais Comédie française, je pensais à ce livre. Il s'est installé dans mon esprit comme une sorte de rêverie. Et puis, il a commencé à prendre corps, ce livre, à s'enraciner en moi et à se ramifier, croître et à véritablement exister. Et des idées me venaient. Et j'aime bien, lorsque j'écris, avoir en quelque sorte un livre d'avance dans ma tête, même si c'est à l'état embryonnaire. Ça me rassure de me dire que lorsque j'aurai terminé le livre en cours, je ne me retrouverai pas comme ça devant le vide et l'inconnu. Même s'il y a toujours une grande part d'inconnu, comme je vais vous le raconter là. De sorte qu'en janvier 2021, j'étais tout à fait prêt à commencer Sarah, Suzanne et l'écrivain. J'avais vraiment tout, disons, pas tout en tête, mais suffisamment de matière pour commencer l'écriture du livre. Et j'aurais pu, à ce moment-là, écrire un roman dont l'héroïne aurait été Sarah, et un livre linéaire comme ça qui raconterait l'histoire de cette femme. Mais je n'y arrivais pas. Enfin, je n'ai même pas essayé. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à envisager d'écrire ce livre sous cette forme-là, extrêmement simple et limpide. Le désir me manquait. Je m'ennuyais d'avance. Et je me disais que j'allais faire ce que je m'étais toujours promis comme écrivain de ne jamais faire, c'est-à-dire d'écrire pour écrire ou d'écrire pour honorer mon contrat ou écrire pour payer mon loyer. Là, vraiment, je me serais mis à ma table sans y croire. C'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était une forme. C'est-à-dire que ça ne me suffisait pas que cette héroïne me passionne, que cette histoire m'attire, que je sois intéressé de donner forme à cette situation. Moi, raconter des histoires pour raconter des histoires, lorsque ce n'est pas transcendé par une recherche esthétique, une forme, une prise de risque, quelque chose d'aventureux, le désir de proposer à mes lecteurs des expériences sensibles, esthétiques, différentes, un peu nouvelles, j'y arrive pas. Il me manque l'excitation. Et je pense que lorsque je réussis un livre, ça procède toujours d'une forme de mise en danger, de challenge que je me donne et d'exploration et de partir à la conquête de quelque chose. Voilà. Je ne suis pas un conteur. Il y a des écrivains qui sont de purs conteurs. Moi, vraiment, je raconte toujours des histoires. Je revendique le fait d'être un romancier. J'écris des romans, mais j'élabore aussi des formes. Et donc, pendant de longs mois, j'étais vraiment dans une sorte de marasme. Je me suis même fait un peu peur, très peur même. Je me disais que Comédie française serait le dernier livre que j'écrirais jamais, que je m'étais asséché, que j'avais plus d'idées. Et si j'avais écrit ce livre, si je m'étais forcé, si j'avais forcé ce barrage que je me mettais à moi-même, je pense que même je n'y serais pas arrivé. Ça aurait été extrêmement plat et mauvais et j'aurais tout jeté. Et c'est au bout de quelques mois, fin août, donc entre janvier et août, que j'ai eu cette idée d'un écrivain. Et c'est un dialogue vraiment qui m'est apparu comme ça. En fin d'après-midi, je lisais un livre avec un crayon de papier pour me documenter pour ce livre. Et je continuais à y réfléchir, à y penser. Et je lisais un livre sur et ceux qui ont lu mon roman comprendront pourquoi je lisais ce livre, et les autres, je ne leur dirai pas, parce que je pense que c'est important de ne pas l'évoquer. Je lisais un livre sur les iconophages. Et à ce moment-là, j'ai entendu un dialogue d'une femme demandant à un écrivain, alors, qui est Suzanne, finalement, comment l'imaginez-vous? Et l'écrivain qui lui répond, eh bien, elle a le même âge que vous, 44 ans, mariée, mère de deux enfants, et elle vit...
Elle a échappé à un cancer, voilà. Comme vous.
Et donc, la forme que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était un écrivain qui raconte à une femme dont il va s'inspirer de la vie pour écrire son prochain roman, et lui raconte le roman avant de l'écrire, et cette femme lui répond, et l'héroïne de ce livre que l'écrivain s'apprête à écrire s'appelle Suzanne. Et donc c'est un dialogue théorique entre un écrivain et sa modèle, et donc il raconte l'histoire de concert, et dans le fond il se raconte le livre avant qu'il soit écrit. Finalement, le lecteur lit un roman. Parce que c'est ça qui est important de dire, c'est que c'est vraiment un roman, mais simplement, il est raconté à travers une forme et un dispositif romanesque singulier. Puisque, et c'est ça qui m'excitait quand j'ai eu cette idée, c'était pas juste qu'il y avait un dialogue. Ce dialogue, déjà... déclenchant une sorte de dynamique, dynamique qui me manquait avec juste le récit linéaire, c'est que je fais cheminer dans un même espace romanesque deux femmes, Sarah et Suzanne, qui ne sont pas tout à fait la même ni tout à fait différentes, et qui vivent continuellement les mêmes situations dans deux endroits différents et en ayant une identité très légèrement différente. Je raconte cette histoire avec la superposition. En fait, elles sont en transparence l'une de l'autre, Sarah et Suzanne. Et j'attendais beaucoup de ce dispositif et par rapport à l'impact que pourrait avoir cette histoire sur le lecteur. C'est-à-dire que je me disais que ce serait de nature à renforcer encore l'impact de cette situation vécue par Sarah, le fait qu'elle soit vécue par deux femmes. Mais surtout, moi, je suis vraiment un écrivain de la sensation. Depuis toujours, c'est une chose qui est vraiment très, très importante pour moi, au-delà du désir que j'ai de raconter des histoires, de créer des personnages de fiction et de mettre en place des situations. C'est vraiment la sensation que le texte, que ces situations et que ces personnages sont susceptibles de transmettre au lecteur.
Et ça m'amène juste deux réflexions pour poursuivre ce que vous disiez. Une première qui est justement sur ces légers pas de côté, sur la façon dont finalement elles sont en transparence et de temps en temps on voit qu'elles sont distinctes. Sarah abandonne son métier d'architecte pour devenir artiste après avoir échappé à un cancer. Suzanne, elle abandonne son métier de généalogiste pour devenir écrivaine. Et j'ai eu comme une impression de jeu, quelque chose d'assez galvanisant aussi en tant que lectrice, de se dire, si je change ça, comment est-ce que je réussis à retrouver les émotions que ressentait Sarah, mais par une autre histoire, ou en tout cas par d'autres moyens. Et une deuxième réflexion, quand vous disiez que ça permettait quelque part, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, de rendre encore plus universelle l'histoire de Sarah, puisque finalement on est sur des sensations similaires alors que les histoires sont légèrement différentes, je me suis fait la réflexion que finalement, ça disait aussi beaucoup sur le pouvoir de la fiction et comment est-ce que finalement, à travers le personnage de Suzanne, à certains moments, vous réussissiez à toucher une vérité de l'émotion qui était sans doute la plus proche de ce qu'avait vécu Sarah, mais que le récit de l'histoire de Sarah n'aurait pas permis de faire ressentir avec autant de force au lecteur. Comment est-ce que finalement, cette transformation permet de toucher à la vérité ?
Vous apportez vous-même la réponse. Non, mais c'est merveilleux ce que vous dites. C'est très, très précisément ce que j'avais envie de faire. La réponse est contenue dans la question que vous me posez, c'est exactement ça. C'est moi, j'aime bien, quand je commence un livre, m'imaginer en illusionniste. Et c'est vrai que cette forme-là me permettait de jouer à l'illusionniste, au magicien, et de faire fonctionner pour le lecteur une sorte de lanterne magique. De voir comme ça ces deux héroïnes en transparence l'une de l'autre, vivant la même chose, mais par moments s'écartant légèrement, toutes les fois que l'écrivain fait intervenir une variation dans le récit par rapport à ce qu'a vécu Sarah dans la réalité. Et donc elles s'écartent et on les voit vivre deux choses différentes, puis de nouveau vivre la même chose avec chacun leur biotope différent, c'est-à-dire l'une en ville à Dijon et l'autre à la campagne en Bretagne. Je me disais que si je réussissais mon coup, ce serait vraiment de nature à enchanter le lecteur et à lui faire éprouver des sensations nouvelles. Et par ailleurs, en effet, qui dit deux points dit une droite, qui dit une droite dit une infinité de points. Donc le fait que cette histoire soit vécue par deux femmes, et un lecteur attentif et qui réfléchit un peu se dit qu'il y en a forcément une troisième qui est ma lectrice dans les sous-bassements du roman, puisque Sarah a dit d'entrée de jeu à l'écrivain qu'elle ne souhaite pas qu'on la reconnaisse. Donc c'est que forcément Sarah est déjà un personnage de fiction par rapport à cette femme qui m'a inspiré le livre, de sorte que Suzanne est un personnage de fiction au carré, donc elles sont trois, et si elles sont trois, elles sont 10, elles sont 100, elles sont 1000. Donc ça me permettait aussi, et ça c'était une ambition que j'avais, d'embrasser une sorte de figure féminine universelle, c'est-à-dire que cette situation-là vécue par ces deux personnages de roman, elle peut être vécue aussi sous des modalités différentes et avec des données socio-culturelles et géographiques différentes par bien d'autres femmes. Donc c'était, c'est le désir que j'avais d'augmenter encore la possibilité d'identification aux personnages de fiction. Et par ailleurs, vous disiez qu'il y avait quelque chose d'assez ludique. Je dois dire que même si ce livre raconte une lente et longue descente aux enfers et qu'il est assez éprouvant tout du long avec un dénouement lumineux, il faut bien le dire, pour ne pas trop vous effrayer, le livre se termine bien, j'ai pris un plaisir inouï à l'écrire. Je l'ai écrit dans un état d'excitation, de joie et d'allégresse incroyable. Ce qui fait que, ça peut vous intéresser en tant que lecteur, on peut tout à fait écrire une histoire de souffrance, de douleur, en se mettant à la place du personnage de fiction, et en l'occurrence là, des deux personnages de fiction, de partager cette souffrance et cette douleur, d'être vraiment dans l'incarnation et de faire vivre au lecteur au plus près du corps, des pensées, des émotions et des sensations du personnage de fiction, au présent de l'action, c'est-à-dire que le lecteur il est contemporain de ce qui est en train de traverser le personnage. Donc il faut aussi se mettre à la place, quand on écrit un livre comme ça, de ce personnage, et en même temps le faire dans une sorte de curieux dédoublement.
Mais c'est ce qu'on ressent aussi
en étant dans la joie et l'allégresse, c'est-à-dire que je faisais fonctionner ce dispositif narratif comme je m'amuserais avec un jouet. Et c'est ça, quand j'ai eu cette idée-là, fin août, je me suis précipité dans mon bureau pour voir si ça marchait. C'est-à-dire que si cette idée que j'avais, cette intuition de forme, résistait à l'épreuve de l'écriture. Et j'ai jeté comme ça des pages, le début, pour voir si ça marchait. Puis comme j'avais déjà une idée assez précise de l'histoire, je me suis même projeté trois chapitres plus loin dans une scène pour voir comment ça pouvait marcher. C'était la scène où Sarah et Suzanne sont devant leur maison et regardent vivre leur famille. Je voulais voir, et j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai apporté une petite amélioration supplémentaire par rapport à l'idée initiale, parce que je trouvais qu'on était trop dans le régime du bavardage et de la conversation. C'est-à-dire que dans les premiers essais que j'avais faits, dans le dialogue entre l'écrivain et Sarah, c'était trop dans la conversation et manquait une teneur littéraire. Je me disais que compte tenu de l'histoire que j'allais raconter, ce serait difficile de la rendre aussi, je sais pas, poignante, percutante et même universelle, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, si je restais dans la conversation. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée du style indirect libre, qui donne quelque chose d'un peu hiératique comme ça à la conversation, et puis qui appuie le caractère théorique que cet échange entre l'écrivain et cette femme revêt, parce que c'est pas, je dis que c'est une conversation, mais ils sont pas autour d'une tasse de café, c'est vraiment une conversation théorique. Donc le style indirect libre que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours beaucoup pratiqué, a achevé de rendre ce dispositif narratif intéressant pour moi.
Intéressant pour vous, mais je le répète, extrêmement intéressant pour les lecteurs et les lectrices également, puisque vous parliez du plaisir pris dans l'écriture, et c'est quelque chose qui se ressent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la descente aux enfers de Sarah Suzanne et en même temps, à tout moment, l'exaltation de la création. Et j'ai trouvé que l'équilibre était assez parfait. Est-ce que ça raconte aussi, enfin moi c'est ce que ça m'a raconté, c'est comment est-ce qu'on écrit aussi un livre, ça parle énormément d'écriture et de la façon à un moment l'écrivain raconte que Suzanne pense à un amour de jeunesse et Sarah lui dit, alors on va pas rentrer dans les détails, mais elle dit mais ça vient pas du tout de moi, et donc l'écrivain dit non, mais ça vient de moi, et de comment est-ce que finalement le fait de faire vivre des personnages, eh bien évidemment que ça se mêle à toutes ces choses, vous disiez être écrivain c'est être en alerte à toutes ces choses qui nous ont façonnées, qui sont présentes au plus profond de nous et qui viennent nourrir les personnages de fiction.
Oui, tout à fait. Ce n'était pas l'idée initiale, mais bien évidemment, elle était contenue dans cette idée de forme qui m'est venue. C'est-à-dire que je me suis dit qu'en plus de raconter l'histoire qu'il m'importait de raconter, c'est-à-dire celle de ma lectrice, eh bien, je pouvais aussi, d'une façon sous-jacente, montrer au lecteur comment pouvait s'élaborer un roman et comment l'écrivain il pouvait travailler. Et là, on le montre vraiment comme dans un laboratoire, en introduisant le lecteur dans le laboratoire, comment on écrit à la fois en s'inspirant de faits réels, en imaginant des choses, dans la prolongation de ce que le réel peut nous suggérer, et puis en important des épisodes de sa propre vie et en les attribuant à un personnage de fiction. Là, on le voit bien dans le livre où je raconte véritablement quelque chose que j'ai vécu moi à 22 ans et qu'on voit très très bien se déplacer pour vraiment prendre corps dans le personnage de Suzanne. Et ça m'intéressait beaucoup de le faire. Après, avec aussi... et là, je me suis un petit peu amusé, en effet, dans les dialogues entre Sarah et l'écrivain, où elle reproche à un moment à l'écrivain de ne pas faire apparaître dans le roman quelque chose qui lui semblait, à elle, important de porter à la connaissance du lecteur. Et l'écrivain lui dit, mais non, franchement, je pense que c'est une mauvaise idée. Ce serait pas... très favorable pour l'héroïne, et puis en plus ça n'a rien à faire là, enfin c'est un autre sujet, etc. Et donc elle se débat un petit peu, elle conteste, et puis l'écrivain lui dit mais vous ne seriez pas en train d'enfreindre le principe sur lequel on se serait entendu, à savoir que je pouvais faire ce que je voulais de votre histoire. Et Sarah lui dit non, pas du tout, faites ce que vous voulez. Mais je pense juste qu'il serait important de porter à la connaissance des lectrices le fait que mon mari faisait telle ou telle chose le soir dans sa cave, parce que c'est un éclairage intéressant sur ce qu'il est, mon mari. Donc voilà, moi je me suis aussi amusé avec ça. Et ça fait en effet partie de l'histoire du livre.
Et peut-être parler un instant de ce moment où se trouve Sarah Suzanne, où je le disais, elle a échappé à un cancer et elle est, vous, on parlait du couple au tout début de cette rencontre où ça se passe finalement pas si mal entre eux. En tout cas, vous disiez, c'est pas une évidence au départ que le mari, qu'il y a des choses à lui reprocher. Et c'est ce moment où, après ce qui lui est arrivé, elle quitte son métier et où elle est dans une exigence de vérité. Elle est dans ce moment-là où finalement, et c'est pour ça, au tout début du roman, il est beaucoup question des signes avant-coureurs. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah là, c'est important de montrer ça parce que peut-être que des personnes pourront se reconnaître et voir un signe à cet endroit-là que moi, je n'ai pas noté. » Mais peut-être parler un instant de ce moment où se trouve Sarah qui est, je crois, extrêmement important pour vous, ce moment d'exigence de vérité.
Oui, et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on pourrait peut-être enfin parler de l'histoire.
Complètement.
Moi, j'adore.
Je ne savais pas si vous vouliez le raconter ou pas. Comme
j'adore
vous...
parler de forme et de création littéraire et d'expérience sensible et
artistique.
Surtout
quand c'est important à ce point.
C'est super
dans
important,
le récit.
Mais il y a quand même une histoire. C'est un roman. Et donc, le point de départ, c'est Sarah qui a réchappé d'un cancer extrêmement grave. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette lectrice m'a écrit, puisque La Chambre des Époux, pour ceux qui l'ont lu, racontait le cancer extrêmement grave vécu par ma femme. Et donc, je raconte cette maladie du point de vue de celui qui n'est pas malade. Et je raconte comment ma femme et moi avons affronté ensemble cette maladie. Et donc j'ai reçu en effet beaucoup de témoignages après l'apparition du livre de personnes qui elles-mêmes avaient été malades ou de personnes qui avaient perdu leur conjoint d'un cancer. Et en l'occurrence, cette femme m'a écrit parce qu'elle me racontait que elle se reconnaissait dans le roman. Elle avait eu un cancer très grave et je vous rassure, il n'est pas question de maladie dans le livre, c'est vraiment traité en flashback de façon très rapide. Mais ce qu'elle a vécu, cette femme, c'est que revenue à la vie, revenue chez elle, elle se trouve être dans une aspiration nouvelle, une forme de renaissance à la plus grande intensité possible, à la plus grande vérité possible de ses désirs, de sa vie, des décisions qu'elle prend. Et elle souhaite que sa vie ait du sens plus que jamais. Et donc elle abandonne son métier pour se consacrer à son art parce qu'elle se dit qu'il faut profiter de la vie, que la plupart du temps on la perd à des choses futiles ou mécaniques ou qui n'ont pas grand sens. Et ça, cette renaissance... Et puis ce désir de conquérir de nouveaux territoires et de se réinventer en quelque sorte, ou peut-être de vivre la vie qu'elle n'avait pas osé vivre jusque-là, elle aimerait le partager avec son mari et qu'ils le vivent ensemble, qu'ils soient au rendez-vous de cette renaissance. Or, force est de constater que son mari s'est assoupi en quelque sorte, il s'est coulé dans une vie morne et paresseuse et un peu mécanique. Et cela... Dans cette exigence de vérité qui est apparue chez Sarah et dans son esprit, ça lui est insupportable. Elle se rend compte que sa vie conjugale, en quelque sorte, et sa vie amoureuse est devenue une sorte de mensonge, et que si elle continuait à faire semblant de ne pas voir ce mensonge, ce serait capituler. Et se mentir à elle-même. Et donc, elle essaie de ramener son mari vers elle et vers cette intensité qu'elle appelle de ses voeux. Et son mari, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est ni contrariant, ni toxique, il est vraiment très conciliant. Il lui donne systématiquement raison en lui disant que « Oui, tu as raison, je vais changer. » Je m'étais aussi de préciser qu'il... a pris la fâcheuse habitude chaque soir de s'isoler dans un bûcher qu'il s'est aménagé pour faire de la musique.
De plus en plus longtemps, de plus en plus longuement.
Et remonte dans leur chambre de plus en plus tard. Je vois que ça rappelle des... ça, quand je le raconte, ça, j'ai souvent... Parce que, en effet, des couples vieillissants, 21 ans de mariage, on peut prendre des habitudes de cette nature qui ne sont pas vraiment... comment dire, c'est pas grand-chose. C'est pas un homme qui maltraite sa femme, juste il aime bien le soir être un peu tranquille et qu'on lui foute la paix. Et il bricole ses trucs dans son coin, mais Sarah, ça ne lui convient pas. Et donc elle s'en ouvre à son mari qui lui promet qu'il va essayer de faire attention. Et par ailleurs, elle découvre complètement par hasard chez leur notaire qu'il possède 75% de leur maison et elle seulement 25%. Elle avait oublié cette disposition notariale signée lorsqu'elle avait 22 ans chez le notaire. Il lui semblait que les années passant, ça s'était magiquement rééquilibré dans la mesure où elle participe au fonctionnement du foyer en injectant tous ses revenus dans la vie de la maison, en payant
dans la vie justement de la maison, c'est-à-dire qu'elle paye tout ce qui est quotidien, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui s'occupe vraiment du quotidien, alors que le mari paye tout ce qui concerne la maison, tout ce qui est patrimonial, acheter aussi s'agrandir, acheter de nouvelles choses, et donc finalement c'est lui le possédant et qui s'occupe de
c'est du la tout. Théorie du pot de yaourt de Titu Lecoq où les femmes, puisque c'est bien connu, Elles font le ménage, elles nourrissent les enfants, elles les amènent à l'école et tout ça. Donc elles achètent les produits ménagers, la nourriture, elles payent l'électricité, le fuel pour la chaudière, et puis les billets de train et d'avion, tout ça pour les vacances. Et puis le mari, lui, il est dans des choses plus nobles, relevant du patrimoine, des emprunts à la banque et tout ça pour augmenter. Et donc, elle en est choquée et son mari lui promet qu'ils retourneront chez leur notaire pour modifier ses dispositions notariales et rien ne se passe. Donc, inspirée par une amie qui lui dit qu'elle connaît bien les hommes parce qu'elle est plus âgée qu'elle. Qu'il faut un électrochoc. Et cet électrochoc, c'est de louer une petite maison pour 2 mois. Et donc, comme elle n'a plus elle n'a plus beaucoup de revenus puisqu'elle a abandonné son métier, elle loue une maison pas chère. Et pour forcer son mari à réagir et pour que son mari comprenne qu'il peut la perdre, qu'elle ne lui est pas acquise, et puis pour qu'il voie l'effet que ça lui fait de vivre sans elle, elle prend donc cette décision. Et le jour où elle annonce à son mari qu'elle va partir dans 2 jours dans cette maison qu'elle a louée afin qu'il réfléchisse et qu'il revienne à de meilleures dispositions vis-à-vis d'elle, eh bien de ce jour, elle n'entendra plus jamais parler de lui.
Et quand elle se rend sous les fenêtres, elle voit que son mari n'est pas enfermé en train de faire d'écouter sa musique ou de faire je ne sais quoi dans son espace à lui. Il est avec les enfants dans le salon, ils dansent ensemble. Elle voit d'un seul coup une vie dont elle ne fait plus partie.
Ils l'ont complètement oubliée. Exactement comme si elle était morte. Et du coup, elle se dit qu'elle se trouve dans une situation surnaturelle où c'est comme si elle était réellement morte de son cancer et qu'elle avait eu la faculté de revenir dans la réalité, voire vivre sa famille. Et donc, elle se dit que, dans le fond, elle ne leur aurait pas manqué si longtemps. Alors que quand elle était malade, ce qui lui faisait peur, c'était d'abandonner et de laisser seul son mari et ses enfants. C'est ça qui m'a vraiment, dans le mail reçu par cette femme, bouleversée, parce qu'elle m'écrivait ces phrases. Et voilà, c'est ça l'histoire, ça commence comme ça. C'est le début du livre, donc après
il faut découvrir beaucoup de choses. Le reste, évidemment.
Et je précise que donc, cette lectrice est devenue une amie, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, juste avant de commencer le livre, c'est-à-dire en septembre 2021, après avoir eu cette idée, parce que je ne l'avais pas contactée. Parce que comme je n'avais pas la forme, je n'étais pas du tout certain de pouvoir écrire ce livre et donc de l'écrire jamais. Mais quand j'ai eu cette idée de forme et de dialogue entre Sarah et l'écrivain, à ce moment-là, je lui ai écrit un mail en lui disant que j'allais vraiment écrire le livre, que j'allais exaucer ce souhait lointain qu'elle avait formulé, vérifier qu'elle était toujours d'accord Et à ce moment-là, elle m'a répondu et elle m'a dit que bien évidemment qu'elle était d'accord, qu'elle en était hyper heureuse. Et là, on a échangé pas mal de mails pendant tout un week-end parce que il s'était passé beaucoup de choses entre 2017 et 2021. Et ce qui déjà en 2017 rendait cette situation vraiment très vraiment déchirante, enfin, et qui nourrissait le désir que j'avais eu d'écrire un livre. Alors en 2021, c'était encore plus fort. Et donc là, on a échangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails pendant 2 jours de questions-réponses. Parce que je lui dis, mais on peut s'appeler, peut-être c'est plus simple. Elle ne voulait pas. Et donc, voilà, l'histoire allait encore plus loin. Et donc, une fois de temps en temps, pendant toute l'écriture du livre, qui a duré 1 an et 2 mois, où j'ai fait vraiment que ça, enfermé à la campagne, en écrivant comme ça, 8 heures par jour. Une fois de temps en temps, je lui envoyais un petit message pour lui poser une question, mais c'était moins par besoin véritable, parce que je suis tout à fait capable d'inventer de garder un lien. Et puis parfois, si elle m'envoyait une petite remarque que je prenais et je disais ah merci, voilà. Et parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'ai commencé ce livre, cette lectrice, Je savais ce qu'elle avait vécu puisqu'elle me l'avait raconté. J'entrevoyais qu'elle était aussi idéaliste et ingénue que je peux l'être moi-même. Et donc, je pouvais déduire pas mal de choses de sa sensibilité, mais cette femme, je ne la connaissais pas. Donc, pour vraiment bâtir et donner vie au personnage de Sarah et Suzanne, il fallait vraiment que je parte de moi. Donc, Sarah et Suzanne, c'est vraiment moi, c'est ma culture, c'est mon tempérament, c'est mes obsessions, c'est mes marottes, c'est mes pensées du moment, c'est etc., mon rapport au réel. Et jusqu'à l'achat du tableau par Suzanne, etc., surtout que avec le personnage de Suzanne, je me suis autorisé à aller vraiment loin dans la fiction et jusque dans la fantaisie et même dans des péripéties narratives à la limite du vraisemblable, puisque Sarah ancrait le personnage dans le réel, même celui de Suzanne. Je m'efforçais que Sarah soit le plus vraisemblable et le plus crédible et réaliste possible, puisqu'il est donné au lecteur dans le livre comme étant la modèle, et donc il fallait qu'elle soit crédible en tant que modèle. En revanche, Suzanne, je pouvais, dans la mesure où le personnage était donné au lecteur comme étant un personnage de fiction inspiré de Sarah, je pouvais vraiment laisser libre cours à mon imagination.
Sarah, on le disait, était architecte avant de se dédier à sa vocation, en tout cas son envie d'être une artiste, une plasticienne. Elle crée des installations que vous décrivez admirablement bien, enfin j'avais l'impression de vraiment les voir. L'architecture a une importance particulière pour vous. Sur France Culture, récemment, vous expliquiez que vous aimeriez que vos livres produisent sur vos lectrices et vos lecteurs le même impact que la vue de certains bâtiments a eu sur vous.
Que l'expérience de certains bâtiments. Oui, ça. Parce que deux de mes livres ont été vraiment inspirés. Enfin, inspiré, c'est un bien grand mot. Bon, l'un d'entre eux, en tout cas, oui, inspiré, c'est-à-dire Comédie française.
De la Fondation Prada à Milan.
De la Fondation Prada à Milan, construit par Rem Koolhaas. Et quand j'y suis allé, j'ai vraiment adoré cet endroit. Et ce qui m'a frappé, c'est l'hétérogénéité des styles. Ce sont vraiment des bâtiments qui s'entrechoquent presque avec des styles et des présences complètement différente et très contrastée. Et j'ai adoré ça. L'effet que ça a produit sur mes sens, l'impact sensitif et sensoriel, m'a plu. Et en passant du temps à la Fondation Prada, je me suis dit, parce que j'étais en train de rêver mon roman Comédie française, et je n'avais pas encore tout à fait la forme, il y avait plusieurs thématiques et tout ça, et je ne savais pas trop comment tout ça allait cohabiter. Je savais qu'il y avait presque une clé de voûte, ou en tout cas qui était une thématique, disons, qui reliait tout ça, qui était l'instant décisif. Mais j'avais peur que ça ne tienne pas. Mais en réalité, c'est la Fondation Prada m'a donné l'intuition qu'il fallait que j'ose aller au bout de l'esthétique de l'hétérogénéité et que je n'ai pas peur de faire cohabiter dans un même livre des matériaux et des régimes d'écriture complètement différents. Et donc j'ai assumé, c'est-à-dire la Fondation Prada m'a amené à assumer complètement les contrastes et les tensions qu'il pouvait y avoir dans les différentes matières que j'envisageais d'injecter dans Comédie Française. Bon, c'est un exemple, mais il y en a d'autres.
Oui, mais c'est assez fascinant de voir époux. Comment est-ce que justement les différents arts dialoguent entre eux et comment est-ce que finalement tout ça est très, très lié, très imbriqué, là où ça ne paraît pas forcément une évidence au départ.
Mais c'est vrai que ça m'est arrivé pour plusieurs de mes romans. Alors, je suis très nourri de littérature et il y a plein d'écrivains qui m'influencent, m'inspirent et tout ça. Mais comme j'accorde dans mon travail une importance particulière à la forme, il est vrai que souvent, j'ai eu comme référence, et j'y pensais en écrivant, des plasticiens ou des architectes.
Il va nous falloir quitter cette salle dans quelques toutes petites minutes. S'il y a une question et que Eric s'engage à faire une réponse extrêmement courte, on peut y répondre. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions ? Et sinon, vous pourrez poursuivre les échanges de manière informelle, évidemment, sur le stand de Gallimard. Merci infiniment.
Merci à vous
toutes et tous d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup,
Eric. Merci.